France Inter.
Bonjour à tous. Depuis l'affaire Betarame, la question des violences sexistes et sexuelles se trouve désormais au cœur des débats. Mais elle concerne également les établissements publics et notamment, c'est peu connu, les écoles qui proposent de pratiquer les arts du cirque. Bonjour Claire Checaglini.
Bonjour Benoît, bonjour à tous.
Alors cela fait plusieurs mois que vous enquêtez sur des dysfonctionnements majeurs au sein d'un lycée de Châlons-en-Champagne où pendant plusieurs années, un professeur a été accusé d'avoir violé, agressé et harcelé des élèves. Une affaire qui n'est pas isolée et qui a été révélée par un véritable mouvement MeToo des écoles de cirque.
Secret d'info. Benoît Colomba sur France Inter.
Ce déplacement aujourd'hui illustre que les problèmes en matière de signalement de violence se posent aussi dans des établissements publics et notamment dans ce lycée Bayen, puisque des alertes passées à partir de 2021 ne seront traitées par l'Éducation nationale que plusieurs années plus tard, à partir de 2023. Et on peut s'interroger sur la lenteur de la réponse de l'administration permettant de mettre à l'écart l'enseignant à l'origine d'agressions sexuelles et d'accusations de viol.
C'était le 22 avril dernier, le député insoumis Paul Vannier qu'on vient d'entendre effectue un déplacement à Châlons-en-Champagne aux côtés de la députée Renaissance Violette Spilbou dans le cadre d'une enquête parlementaire sur les violences en milieu scolaire, une visite au lycée Bayen, un établissement public de la Marne où Claire Checaglini des faits très graves se sont produits pendant plusieurs années.
Oui, des alertes sont lancées en 2021, mais il faut attendre 2 ans avant qu'une enquête judiciaire ne soit ouverte. L'enseignant mis en cause finit par se suicider en décembre 2023, ce qui éteint l'action pénale.
Reste que cette affaire pose beaucoup de questions, on va le voir, et en précisant que certains propos que vous allez entendre peuvent choquer, mais ils font partie intégrante de cette histoire. Une affaire dans laquelle il est donc question du comportement d'un enseignant, Claire.
Oui, un professeur agrégé qui s'appelle Pascal Vey. En plus de ses cours de français au lycée Bayen, il participe en 2012 à la création d'une section cirque. Il intervient aussi dans le prestigieux Centre National des Arts du Cirque, situé également à Châlons-en-Champagne, partenaire du lycée, mais qui dépend, lui, du ministère de la Culture. Et Pascal Vey fait également partie du Conseil supérieur des programmes au ministère de l'Éducation nationale.
Oui, donc un homme reconnu par les institutions, et cet enseignant, il sort de l'ordinaire.
Oui, ses collègues l'apprécient, le considèrent comme charismatique, tout comme plusieurs de ses élèves. C'est le cas de Camille Brunel, qui n'a pas oublié la manière très singulière qu'avait Pascal Vey de faire cours.
Ses cours faisaient l'éloge de la transgression. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant, avec une mémoire impressionnante, et il faisait des cours de lettres sans pareil. On pensait que c'était Robin Williams dans le cercle des poètes disparus. Et donc, c'était une des seules personnes à parler d'amour et de sexualité. Bah, on trouvait ça super d'avoir un prof qui parlait de cul en cours.
Il parle d'amour et de sexualité dans ses cours, bon, sauf que ça va plus loin que ça.
En effet, parce qu'au fil des années, Pascal Vey va exercer une emprise sur plusieurs de ses élèves mineurs, avant de les harceler, de les agresser sexuellement et même parfois de les violer. Écoutez le témoignage de Sylvain, nous avons changé son prénom. Il a 16 ans quand il devient l'élève en première de Pascal Vey.
J'ai été sélectionné ou élu, il me faisait lire un certain nombre de ses textes. Et il m'a fait lire, il a utilisé d'ailleurs ce stratagème avec d'autres, un texte qui racontait comment lui-même avait été violé par des cousins. Et ainsi, en fait, se tendait le piège, il me mettait dans une sorte de confidence. Et à partir de ce moment-là, ces entreprises, disons, de séduction, consistant à me déshabiller progressivement et à pratiquer sur moi plusieurs fellations, ont eu lieu donc à partir de ce printemps. Voilà.
C'est donc à partir du printemps 98 que Sylvain commence à être violé par son professeur qui lui demande de garder le silence.
Il définissait autour de notre histoire le sentiment que c'était une relation privilégiée, hors du commun, non conformiste et que les gens ne peuvent pas comprendre. Par définition, le secret est quelque chose qui le protège et m'emprisonne.
À l'époque, plusieurs enseignants sont au courant qu'une relation existe entre ce professeur et son élève, ce qui pose déjà en soi un problème, puisqu'on le rappelle, un adulte exerçant une autorité sur un mineur n'a pas le droit de former un couple avec lui, même si la majorité sexuelle est fixée à 15 ans.
Et qu'est-ce qui va se passer ensuite ?
Eh bien, 2 ans plus tard, Sylvain va poursuivre ses études à Paris et il échappe enfin à l'emprise de l'enseignant.
J'ai assez vite compris qu'il repérait un nouvel élève très brillant qui allait pouvoir séduire. J'ai compris en réalité qu'il allait reproduire le mécanisme.
Et ce mécanisme, Pascal Vey le reproduit en effet avec Laurent. Là encore, c'est un prénom d'emprunt. Nous sommes au début des années 2000. Laurent est en première. Son professeur lui propose des cours particuliers à son domicile pour améliorer son écriture. L'adolescent ne se méfie pas. Laurent a accepté de nous raconter ce qui s'est passé à condition de faire lire son témoignage.
Je me rappelle de lui fermant la porte à clé. Il me propose une boisson. J'accepte volontiers. J'avais vraiment une impression de chaleur, avec la tête qui tournait. Et pendant ce temps, lui me parlait d'un de mes devoirs, dans lequel il disait avoir vu des désirs homosexuels érotiques pour lui, et qu'il captait le message. Il savait que j'étais un enfant de parents divorcés, et donc il essayait de me faire dire que j'étais abandonné. Je me souviens de moi bloqué, en fait. Et bêtement, je disais oui, oui à tout ce qu'il me disait. L'image qui me reste en mémoire, c'est celle d'un animal qui fait le mort, pour ne pas être dévoré. J'ai des flashs de lui sur moi, de moi sans pantalon. Entre le moment où j'arrive chez lui et où je regagne l'internat, je n'ai aucun souvenir, vraiment aucun.
Ouais, ce qui fait penser qu'il a sans doute été drogué et ce n'est pas un cas isolé.
Effectivement, d'autres élèves racontent avoir eux aussi subi la même chose. Comme Yvan Roux, de 2015 à 2017, il était en section cirque avec Pascal Vey.
Je peux vous dire un message qu'il m'a envoyé un jour. « Je donnerai tout pour que tu viennes t'allonger près de moi avec un vin léger à la main et notre chaleur. » Et puis un jour, je suis venu chez lui pour boire un coca ou une bière. Et je me souviens avoir eu des effets dus à un produit, du GHB ou c'était un tranquillisant. Et j'ai décidé de partir un peu brusquement.
Le GHB, c'est une substance utilisée comme soumission chimique et qui est surnommée la drogue du violeur. Donc, cet ancien élève qu'on vient d'entendre a réussi à s'échapper à temps, mais ce n'est pas le cas tous.
Oui, Quentin a aujourd'hui 26 ans, nous lui avons donné un nom d'emprunt. Et alors qu'il était en terminale, Pascal Vey lui propose également des cours particuliers à son domicile.
Il voulait voir ce que j'écrivais à l'époque, parce que j'écrivais beaucoup et je dessinais beaucoup. Et au final, les dessins n'ont jamais été sortis et les textes non plus. Et après ça, je ne me rappelle presque rien.
Et là encore, donc, un blackout total pour Quentin, qui se souvient juste de s'être réveillé dans le lit de Pascal Vey. Et à partir de ce moment-là, l'élève va vivre un véritable calvaire.
Il y a des moments de torture physique que j'ai vécu. Il m'a déjà giflé. Il m'a déjà enfermé dans sa salle de bain pour que je réfléchisse et que je me regarde dans le miroir et que je trouve qui je suis, ou des choses comme ça, ou m'enfoncer des trombones sous les doigts pour voir à quel point je pouvais avoir mal, ou des sévices corporels comme ça, c'est déjà arrivé.
Et à l'époque, ce jeune homme, il ne porte pas plainte ?
Non, d'autant que vis-à-vis d'autres adultes, Pascal Vey explique qu'il est en couple avec Quentin. Ils partent même en voyage en Italie.
Ça a été une semaine en enfer. Chaque nuit, une angoisse. Il a abusé de moi dans la chambre d'hôtel. Je suis descendu, j'ai essayé de demander de l'aide et pas gentiment demandé de fermer ma gueule. En rentrant, j'étais plus moi-même, j'étais une coquille vide, je me sentais comme mort.
Pourquoi vous partez pas avant ?
J'en suis incapable. Et j'avais atteint un stade où dans ma tête, je me disais que c'était la seule personne qui me comprendrait et m'acceptait comme j'étais.
Et c'est ce qui caractérise justement l'emprise. Aujourd'hui, avec 2 autres anciens élèves, Quentin a décidé de porter plainte contre l'État devant le tribunal administratif, estimant que l'Éducation nationale ne les a pas protégés. Il se souvient par ailleurs avoir vu plusieurs photos d'élèves nus chez Pascal Vey, des images que les enquêteurs n'ont pas retrouvées. Mais interrogés par les policiers, 2 autres anciens élèves confirment les propos de Quentin. Nous avons fait lire leur témoignage.
Il me disait « Si ça t'intéresse, je fais des photographies de personnes torse nues ou pas habillées du tout, car c'est là où l'on trouve la divinité. »
Il m'a demandé de lui envoyer des photos de moi nu, ce que j'ai fait. Il me disait qu'il se masturbait devant mes photos. J'ai dû en envoyer d'autres, puis j'ai arrêté. Il devenait exigeant et il se plaignait.
La voisine et amie de Pascal Vey nous confirme que l'enseignant avait bien des photos d'élèves chez lui et quelques semaines avant son suicide, elle l'a accompagné dans une déchetterie où il a jeté des cartons de documents.
France Inter, Secret d'info, Benoît Colombat.
Et dans cette affaire terrible, Claire Secaglini, il va se produire un événement qui va tout changer.
Oui, nous sommes alors en juillet 2021 et dans le sillage du mouvement MeToo, un collectif se crée sur les réseaux sociaux. Il est baptisé Balance ton cirque. Il dénonce alors un prédateur sexuel au sein du Centre national des arts du cirque, où intervient Pascal Vey, ainsi qu'au lycée Bayen de Châlons-en-Champagne, mais son nom n'est pas cité.
Et du coup, est-ce que la direction de l'établissement est quand même alertée ?
Absolument. Selon nos informations, l'approviseur du lycée Bayen est contacté par une journaliste du quotidien régional L'Union Lardonnais, qui enquête sur ce sujet et qui dispose de plusieurs témoignages accusant Pascal Vey. La chef d'établissement avertit alors par écrit le directeur académique, son supérieur direct, et le cabinet du recteur.
Et qu'est-ce qui va se passer ?
Eh bien, rien. L'enseignant n'est pas convoqué, aucune enquête administrative n'est lancée. Or, 5 ans plus tôt, une lycéenne avait envoyé une lettre anonyme à la proviseure de l'époque et elle y dénonçait déjà le comportement problématique de Pascal Vey vis-à-vis des garçons de sa classe.
Mais une enseignante, elle, va réagir.
Oui, il s'agit de Marie-Pierre Jacquard, professeure de sport au sein de la section cirque du lycée Bayen. Elle est amie à l'époque avec Pascal Vey, mais en discutant avec ses élèves, après l'action du collectif Balance ton cirque, elle comprend qu'il se passe quelque chose de grave.
J'ai réuni tous mes élèves. Il y a eu un grand silence d'abord. Et au fond de moi-même, j'étais liquide en fait. J'ai réalisé que ça allait être une catastrophe. Et puis, il y a une fille qui a commencé à dire « il est crade ». J'ai dit « voilà, vous ne pouvez pas juste dire quelque chose comme ça. Il va falloir que les gens concernés me le disent. Il va falloir vraiment passer un cap difficile. » Et ça a pris beaucoup de temps. J'ai appelé tous mes anciens élèves un par un. J'ai cherché sur les réseaux tous les gens qui pouvaient l'avoir connu. Et là, les choses ont commencé à apparaître de façon beaucoup plus claire.
Oui, donc cette professeure de sport commence en fait à mener une véritable enquête.
C'est ça. Et très rapidement, elle recueille de nombreux témoignages qui racontent tous la même histoire.
C'était toute une machination qui était très très rodée en fait. De temps en temps, il les flattait. De temps en temps, il leur faisait peur. Il les menaçait. Jusqu'à ce qu'il soit complètement à sa merci. Et à ce moment-là, il en profitait pour demander soit des faveurs sexuelles, soit des photos de pédocriminalité, des « je t'aime », des cadeaux. Et puis en échange, il leur faisait croire qu'il allait leur permettre de rentrer dans des écoles. Il y en a un qui m'a dit « j'allais moi-même, avec mes petites jambes, jusque chez Pascal Vey ». Et je lui dis « mais quand tu es sous emprise, c'est pas de ton plein gré, en fait ». Il dit « non, j'étais terrifiée ».
Certains élèves qui se disent terrifiés. Et cette enseignante, Claire, est-ce qu'elle prévient sa hiérarchie ?
Oui, Marie-Pierre Jacquard explique qu'elle tente alors d'alerter l'approviseur et son adjoint.
En 2 ans, j'ai dû aller au moins 15 fois, 20 fois dans leur bureau. Au départ, j'avais le témoignage de mes élèves qui étaient en cours. Et puis, très vite, j'ai eu le témoignage d'élèves qui étaient partis du lycée, parce qu'ils étaient plus âgés et qu'ils osaient parler. Ma proviseure m'a répondu... Je ne veux aucun témoignage d'ancien élève, je ne referai pas l'histoire.
Vous avez aussi alerté 2 inspectrices.
Exactement, je les ai alertées au même moment. Et il y en a une dont j'étais plus proche. Et là, elle a eu les larmes aux yeux. Et je me suis dit, bon, ça va bouger, j'en suis sûre. Et en fait, il ne s'est rien passé.
Et dans cette histoire, il y a un second lanceur d'alerte qui s'exprime pour la première fois.
Oui, c'est l'infirmier scolaire du lycée Bayen. Il est resté en poste 2 ans dans l'établissement de 2021 à 2023. Il est encore marqué par ce qu'il a constaté à l'époque.
Par exemple, dans la classe de première, à un moment donné, j'avais 10 élèves touchés par des problèmes de tics, de tocs, des crises d'angoisse paroxystiques, des choses vraiment extrêmement violentes, d'origine psychogène. C'était quand même assez impressionnant. Donc, j'ai demandé à intervenir en fait dans ces classes. Ça a été un peu un déferlement de parole pour dénoncer le fait que M. V rapportait tout au sexe pendant ses cours. Il y avait également beaucoup de rapports à la mort, au suicide. Lui, en fait, quand il y avait quelqu'un qui était en mal-être dans la salle, en fait, il interdisait aux autres élèves d'intervenir pour que les élèves soient emmenés à l'infirmerie. Il ramène tout à lui en disant « vous savez pas ce que c'est que d'être malade, moi je le sais, je suis malade, pourtant je suis devant vous ». Donc en fait, il m'explique que M. V cristallise tout ce mal-être dans ses promotions. J'avais écrit au rectorat parce que la situation était vraiment extrême. C'est la première fois que je suis témoin de tels symptômes de groupe.
Et le courrier de cet infirmier scolaire au rectorat, Claire, vous avez pu le consulter?
Oui, il est daté du 17 décembre 2021 et il détaille l'état de santé des élèves, mais il ne mentionne pas le nom de Pascal V. L'infirmier affirme néanmoins avoir averti par oral la proviseure sur le comportement de ce professeur.
Et la proviseure, à l'époque justement, qu'est-ce qu'elle répond?
Eh bien, elle n'a pas donné suite à nos demandes d'interview, mais devant les policiers, elle explique n'avoir jamais eu connaissance de faits délictuels concernant Pascal V.
Mais le même Pascal V doit quitter le Centre National des Arts du Cirque.
Oui, oui, il intervient parallèlement en plus des cours au lycée Bayen. Et cette mise à l'écart fait suite au message du collectif Balance ton cirque. Le secrétaire général du Centre National des Arts du Cirque envoie alors un courrier en septembre 2021 pour informer la proviseure de sa décision.
Au lycée Bayen, en revanche, l'enseignant reste en poste.
Oui, et du coup, en mars 2023, la professeure de sport alerte à l'extérieur de l'établissement. Marie-Pierre Jacquard contacte l'association Colosse aux pieds d'argile, spécialisée dans le recueil de la parole des victimes de violences. Elle collecte une dizaine de témoignages de harcèlement sexuel et d'humiliation. On apprend notamment que Pascal V avait caché une caméra pour filmer chez lui un élève en train de se doucher. L'enseignant n'hésitait pas non plus à intervenir dans la vie privée de ses élèves, comme le raconte cette ancienne lycéenne.
Il allait jusqu'à appeler les parents de mon ex-petite amie pour les mettre en garde, pour leur dire qu'il fallait pas que leur fils ait une relation avec moi. Et il allait jusqu'à dire des mensonges. Et même des fois, ses parents m'ont déjà confié qu'ils avaient l'impression presque qu'il se comportait comme s'il parlait à ses beaux-parents lui-même. Ça les mettait mal à l'aise. Les parents de mon ex-petite amie sont allés voir la proviseure parce que ça ne pouvait plus durer. Et la proviseure leur a juste dit « Je peux rien faire, il est dangereux et vous devriez tenir votre fils loin de lui ».
Et aussi étonnant que ça puisse paraître, la chef d'établissement en poste à l'époque que nous avons contactée confirme ce que dit cet élève.
Et ces témoignages collectés donc par l'association Colosse aux pieds d'argile, ils font apparaître un autre aspect trouble de la personnalité de Pascal V.
Oui, parce que l'emprise et les violences sexuelles qu'il faisait subir à certains élèves s'accompagnaient d'un dénigrement d'autres lycéens, comme le racontent deux anciennes élèves de la section cirque dont nous avons fait lire les propos.
Une élève de ma promotion a fait une tentative de suicide en janvier 2020. Il nous expliquait qu'elle était malade et qu'il fallait qu'on se protège. Il nous a incités à ne pas prendre contact avec elle.
Au lieu de nous encourager à soutenir une personne bipolaire, il a diabolisé la maladie, il nous a fait peur et nous a affirmé que sa maladie la rendait calculatrice, manipulatrice et dangereuse.
Et tous ces témoignages finissent par faire bouger la justice.
Oui, en avril 2023, dès que le parquet de Châlons-en-Champagne en a connaissance, une enquête est ouverte. Mais il faut attendre 5 mois pour que Pascal V soit suspendu par l'Éducation nationale à la suite d'une plainte déposée par un ancien élève, Sylvain, qu'on a entendu en début d'émission. Une plainte pour viol sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité. Et en décembre 2023, on le rappelle, l'enseignant met fin à ses jours, ce qui éteint alors l'action pénale.
Et dans cette affaire, des questions se posent également sur l'attitude du rectorat de Reims.
Oui, sachant que, on l'a dit, le cabinet du recteur est alerté par mail dès le 8 juillet 2021. La proviseure du lycée Bayen à l'époque l'avertit que des élèves dénoncent le comportement répréhensible de Pascal V. L'association Colosse aux pieds d'argile a aussi transmis ses témoignages au rectorat. Sans réaction. Et en juin 2023, la professeure de sport, lanceuse d'alerte, Marie-Pierre Jacquard, finit par obtenir un rendez-vous avec le recteur.
Au final, 2 jours avant, on m'a appelé en me disant que le rendez-vous était annulé. Et moi, je n'ai jamais vu le recteur. Juste après ça, je lui ai mis un message en disant que des élèves étaient en danger et j'ai eu aucun retour.
Et peu de temps après l'ouverture de l'enquête judiciaire, le recteur quitte ses fonctions.
Oui, Olivier Brandouy devient directeur adjoint au cabinet de Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation nationale. Contacté, Olivier Brandouy ne nous a pas répondu.
Et Gabriel Attal, lui, est-ce qu'il est au courant de cette affaire?
Eh bien, selon nos informations, il aurait été prévenu, mais bien après, une fois nommé à Matignon. C'est en tout cas ce qu'explique la députée Horizon de la Marne, Lise Magnier. Elle affirme avoir transmis une note sur le sujet à l'équipe du Premier ministre le 15 février 2024, après avoir rencontré la lanceuse d'alerte, la professeure de sport. Quant à l'ancien recteur, Olivier Brandouy, il a conservé son poste au ministère de l'Éducation nationale sous la direction de Nicole Belloubet et d'Amélie Oudéa-Castéra.
Et en 2024, une enquête interne a finalement été lancée sur cette affaire.
Oui, menée par l'Inspection Générale de l'Éducation Nationale, qui conclut à une succession de défaillances. Dans ce rapport, l'ancien recteur qu'on évoquait à l'instant explique que les premiers témoignages transmis auprès de ses services étaient, je cite, « difficiles à interpréter et avec des faits mal caractérisés ». Mais devant la commission d'enquête parlementaire sur les violences dans les établissements scolaires, le 9 avril dernier, la directrice de l'Inspection Générale, Dominique Marchand, n'a pas mâché ses mots.
Globalement, il y a eu des défaillances à chacune des étapes. Il y a eu des dysfonctionnements au départ de la chef d'établissement et au niveau du rectorat.
Deux jours après cette audition, des députés de la commission d'enquête ont alerté le parquet de Châlons-en-Champagne. Ils ont signalé des faits présumés de non-dénonciation de crimes, d'atteintes sexuelles sur mineurs et de mauvais traitements. Et le 22 avril dernier, on l'évoquait au début de l'émission, les deux co-rapporteurs se sont donc rendus au lycée Bayen pour réhabiliter le témoignage de la professeure de sport Marie-Pierre Jacquard. Vous allez l'entendre juste après l'intervention de la députée Violette Spilbou.
Une lanceuse d'alerte a agi pour dénoncer des violences sexuelles envers des jeunes qui se sont largement exprimés. On sent qu'il faut du courage face à cette administration, l'Éducation nationale, pour que l'omerta ne fasse pas que tout continue comme avant.
Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Vous avez les larmes aux yeux.
Je me dis qu'il y a de l'espoir. J'espère vraiment qu'on va réussir à protéger les élèves, qu'on va réussir à protéger ceux qui aimeraient parler et surtout que plus personne n'aura rien à gagner à se taire en fait.
Et lors de cette visite au lycée Bayen, les députés ont saisi plusieurs documents. Le rapport de la commission d'enquête parlementaire sera rendu dans un mois.
Bien, alors on va s'arrêter là pour l'instant, mais surtout restez avec nous. Dans un instant, on va voir que d'autres écoles de cirque sont également concernées par les violences sexistes et sexuelles.
Je porte ma maison sur mon dos, mes chansons, mon enfant sur mon dos, des émotions qu'il faut taire et la guitare en bandoulière. Ça fait lourd, ça fait trop. Ça fait lourd, ça fait trop.
Courage, extrait du dernier album de Clara Luciani, Mon sang.
France Inter, Secret d'info. Benoît Colombat.
Et retour à notre enquête sur les écoles de cirque en France. Il y en a plus de 150 des établissements Clerché-Caglini qui sont donc aujourd'hui rattrapés par la vague MeToo.
Oui, parce que par définition, les élèves circassiens travaillent avant tout avec leur corps, ce qui évidemment les rend particulièrement vulnérables, comme l'explique Rachel Vadou. Elle est formatrice en prévention des violences sexistes et sexuelles et elle intervient notamment dans les écoles de cirque.
Ça commence avec la relation enseignant-élève qui, par nature, est asymétrique, qui peut favoriser des relations d'emprise. On a en effet les parades, hein, donc ces gestes qui permettent de rattraper quelqu'un pour lui éviter de faire une mauvaise chute, etc. Évidemment, le contact physique est au cœur de la pratique. La liberté de création peut être utilisée comme un prétexte pour s'approprier le corps de l'autre, le traiter comme un objet, non pas comme un sujet, ne pas respecter ses limites, etc. Autre facteur de risque, le facteur précarité. La dénonciation de faits de violence sexuelle, possiblement, ça va nous rayer de la carte. Il peut y avoir aussi une confusion autour de cette question de dynamique de séduction dans les choix qui sont faits. Voilà, et vous avez en fait un secteur qui est très propice aux violences sexistes et sexuelles, peut-être plus qu'ailleurs.
Et un secteur propice également aux propos particulièrement sexistes, comme en témoigne cet ex-étudiant de l'École nationale de cirque de Rosny-sous-Bois, en région parisienne dans les années 2010. Il se souvient encore d'un cours de balançoire. Attention, ces propos peuvent choquer.
C'était une période où, techniquement, on galérait un peu. On était à réfléchir comment trouver de la rotation pour faire nos figures. Et là, notre prof trouve une solution et vient nous dessiner un vagin. Il lui dit, les gars, là je vais vous parler texto, hein, les gars, là c'est une chatte, il faut que votre bite arrive là-dessus.
Mais sans commentaire, alors il ne s'agit pas de généraliser, bien sûr, ce type de réflexion à toutes les écoles de cirque, mais Claire, vous vous êtes notamment intéressée à la section cirque d'un lycée dans la Vienne.
Oui, le lycée Berthelot à Châtellerault, où un ancien gymnaste a été pendant longtemps directeur pédagogique, un enseignant dont le comportement est dénoncé par plusieurs anciennes élèves de promotions différentes et qui ne se connaissent donc pas. Écoutez d'abord cette jeune femme, elle a eu ce professeur en classe de terminale en 2005-2006.
C'était le prof grande gueule qui a les meilleurs acrobates, dont on a peur mais qu'on a envie d'avoir. Il m'a dit devant une partie de la classe, toi ton boulot, ce sera de faire bander les mecs. Quand il m'étirait à la fin des cours, il a commencé à me mettre la main entre les jambes, donc j'ai des cannes d'équilibre, et il venait mettre son pénis contre mes doigts. On était en plein milieu de la salle, il y avait des gens autour, mais personne ne voyait. En fait, vous me faisiez croire que c'était moi qui voulais ça. Et pourtant, je souffrais et j'aimais vraiment pas ça. À l'école, c'était l'impunité par rapport à l'abus de pouvoir, en fait. On n'est pas de moteur, il me disait, les gens pourraient pas comprendre ce qu'on ressent, ce rapport charnel. Je savais pas que c'était de la perversion.
Et cet élève vient de faire une déposition à la police. Quant au professeur en question, voilà ce qu'il répond.
Je suis quelqu'un qui est un amoureux de l'apprentissage, qui est très engagé, peut-être trop, mais dans un contexte de discipline où le tactile peut être une méthode d'apprentissage, notamment par rapport aux équilibres sur les mains, donc forcément plus exposé.
Et donc lui estime être resté dans un cadre strictement professionnel, mais Claire, vous avez recueilli un autre témoignage qui interroge.
Oui, celui d'une ancienne élève alors âgée de 19 ans. Dans les années 2010, elle sollicite ce professeur pour des cours d'acrobatie afin de se remettre à niveau après une blessure.
Il m'avait proposé un tarif super cher et il m'avait dit que je pouvais poser pour lui. Il me ferait des cours moins chers. Il y a une honte d'avoir accepté, mais du coup j'ai fait des photos avec lui, de plus en plus dénudées, sensuelles, et du coup il a commencé à poster des photos de moi.
Des photos postées sur Instagram sans l'autorisation de la jeune femme. De son côté, le professeur dément lui avoir demandé de poser nu en échange de cours d'acrobatie, même s'il reconnaît avoir eu un projet de photo avec, je cite ses mots, un côté plutôt charnel.
Et puis il y a une troisième jeune femme qui se plaint, elle aussi, du comportement de cet ancien responsable de la section cirque de Châtellerault.
Oui, Célia Sanson, de la promotion 2012.
J'ai eu des rendez-vous avec lui toute seule où il me disait « Je sais que je te plais, mais il ne faut rien dire à personne. » J'étais mineure, il avait 40 ans à l'époque, je crois. Donc un jour, il me dit « Est-ce que c'est pour moi que tu as montré ta culotte ?» Autour de moi, les autres élèves me disaient « Il est trop puissant, il peut ruiner ta carrière, de toute façon, tu n'y pourras rien. » dont certaines filles qui étaient concernées aussi. Et d'un autre côté, il me descendait devant tout le monde. Il disait, t'es trop grosse pour la performance, t'as des gros bolets. Du coup, j'ai fini avec des troubles du comportement alimentaire. Ça a brisé un peu mon rapport aux hommes. Je suis partie dans la vie adulte avec une image de moi totalement détruite et j'ai continué à avoir peur, en fait.
Et là encore, l'enseignant conteste cette version des faits.
Je réfute les propos, mais je lui ai déjà dit « Allez, viens, ma grosse, on va commencer la séance. »
Bon, mais ce que vous avez découvert, Claire, c'est que cette histoire, elle ne s'arrête pas là.
Effectivement, parce qu'après 15 ans passés à Châtellerault, le professeur est embauché dans une école de cirque à Bruxelles. Contacté, deux responsables de l'établissement expliquent que des signalements d'agression sexuelle contestés par le professeur sont remontés jusqu'à eux. Au début des années 2020, il fait donc ses valises pour un troisième centre de formation de circassiens en Italie. Et pourtant, son cas a été signalé à la FEDEC, la Fédération des écoles de cirque en Europe, qui regroupe plus de 80 établissements dans une trentaine de pays. Isabelle Joly en est la directrice.
On n'a pas une liste formelle, mais c'est évident que si l'école en Italie m'avait appelé pour me dire « on veut recruter cette personne-là qui est passée par deux écoles et bizarrement on vient chez nous », je l'aurais directement dissuadé d'engager cette personne. Là, en l'occurrence, c'est un cas connu. J'étais au courant, donc j'aurais dit la raison pour laquelle il avait été écarté des deux écoles. Mais on n'est pas considéré comme étant indispensable lors d'un recrutement.
Donc là, visiblement, l'information n'est pas allée jusqu'en Italie, mais Claire Ceccaglini, il arrive aussi que des fédérations interviennent et c'est ce qui s'est passé au pôle Cirque Jules Verne à Amiens.
Oui, cette structure de la Somme a perdu son agrément fin 2022 après une inspection de la Fédération française des écoles de cirque. Inspection déclenchée à l'origine pour des problèmes de gestion, mais quand Vanille Louis, la chargée de mission de la fédération, mène son audit sur place, elle découvre aussi des cas d'agression sexuelle.
Ce qui est étonnant, c'est l'ampleur du phénomène. Enfin, trois profs, c'est inimaginable. Le directeur de l'école avait couvert en fait ces cas d'agression. C'était quelqu'un de colérique et qui parfois était violent physiquement, donc craint, puisqu'il y a déjà eu des bagarres dans l'école entre les organisateurs de l'école.
Oui, donc un climat visiblement assez particulier au sein de cet établissement, selon cette chargée de mission de la Fédération française des écoles de cirque. Mais certains intervenants au sein de cette école ont accepté de témoigner.
Oui, comme Véronique Merlier, qui a donné des cours pour devenir clown entre 2015 et 2022.
Moi, j'ai été témoin de violence au niveau de la pédagogie, où on tirait les cheveux sur le trapèze, des choses comme ça, qui quand même déjà sont très graves. En acrobatie, la main aux fesses, allez, vas-y, bouge un petit peu, vas-y, saute. J'ai entendu beaucoup de choses aussi en acrobatie, le fait qu'on les a rattrapés un peu par le slibard, enfin des choses comme ça. Et en plus, le pire, c'est que quand vous donniez des signaux d'alerte, tire les cheveux de la fille qui est sur le trapèze pour lui apprendre à monter sur le trapèze, je trouve ça normal. Eh ben rien.
Fabiana de Moraes a, elle, été assistante administrative de 2017 à 2019 à l'école de cirque d'Amiens. Elle affirme que certains enseignants de cet établissement ne faisaient pas mystère de leur homophobie.
Deux ou trois professeurs enseignants n'adressaient pas la parole aux jeunes homos ou lesbiennes. J'ai entendu des choses vraiment extrêmement lourdes. Il faut que tu couches avec celle-ci pour la guérir parce qu'elle était lesbienne.
Et toutes ces situations particulièrement problématiques figurent dans un document que vous vous êtes procuré.
Oui, un document rédigé à l'initiative des filles de la promotion 2018 de l'école de cirque d'Amiens. Erika Matagne était la déléguée de la promo à l'époque.
Tout on a des faits, plus ou moins graves. Il y avait un peu des choses insidieuses dans les parades. Et en fonction des gens qui nous paraient, on se retrouvait le short relevé jusqu'aux fesses. Et moi, j'ai plusieurs fois eu aussi des claques sur les fesses, des claques d'encouragement, entre guillemets. Nordine, vu qu'il était directeur de l'école de cirque, il a autorisé tout ça. Il n'a rien fait contre. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que quand nous, les filles, on a donné ce fameux compte-rendu et je l'ai déposé sur son bureau, après, toutes celles qui ont signé le compte-rendu, on n'avait plus cours, on ne nous parlait plus. Donc, il y avait clairement un climat terrible.
Oui, donc elle met en cause le directeur de l'école de cirque déjà épinglé, on l'a dit, par l'inspection de la Fédération française des écoles de cirque.
Oui, alors après cet audit de la Fédération, les trois enseignants directement mis en cause ont été interdits de travailler au sein de l'établissement. Concernant cette fois le directeur, Nordine Halal, il a été un temps suspendu avant de quitter le pôle cirque d'Amiens, mais via une rupture conventionnelle. Et lui estime avoir été victime d'un règlement de compte.
Quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage. Le pôle cirque voulait ma tête. Suite aux accusations, il y a eu un conseil de discipline. La conclusion finale, c'est qu'il n'y a aucune sanction.
Et pour être précis, le conseil de discipline de l'établissement a estimé que le harcèlement n'était pas établi, mais qu'on pouvait simplement lui reprocher des faits d'insubordination et des manquements à son devoir de réserve. En tout cas, une nouvelle responsable formée à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles a récemment été nommée à l'école Jules Verne d'Amiens.
Et au niveau de la prévention, justement, on en est où ?
Eh bien, au printemps 2022, la Fédération française des écoles de cirque a mis en place un plan de prévention de lutte contre ces violences, avec une formation obligatoire de tous les enseignants et la mise en place d'un référent dans chaque structure agréée. La Fédération impose également que chaque nouvel encadrant travaillant avec des mineurs ait désormais l'obligation d'avoir un casier judiciaire vierge. Autre initiative, cette fois au niveau européen, elle est née à la suite du collectif Balance ton cirque, le projet Speak Out. Speak Out comme dénoncer en anglais, il s'agit de soutenir les principales structures du secteur circassien, écoles, festivals, compagnies, pour les sensibiliser à la lutte contre toutes ces formes de violence.
Merci Claire Checaglini pour cette enquête que vous pouvez retrouver en longueur sur notre site ou sur l'appli Radio France. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission était préparée par Raphaël Canezan et réalisée par Christophe Imbert. À la programmation musicale, il y avait Jean-Baptiste Audibert et à la technique, Ronan Mahé. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve samedi prochain.